Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques secondes sur votre radio locale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, 365e numéro ce samedi 1er décembre, au cours duquel nous allons vous proposer un petit compte-rendu de la 11e fête du livre de Saulieu qui s'est tenue le 28 octobre dernier. Nous aurons l'occasion de tendre notre micro à Patrick Vaucoulon, aquarelliste, défenseur de la nature. Il signe deux très beaux ouvrages magnifiquement illustrés de ses aquarelles, notamment « Flore rare et menacée de Bourgogne » aux éditions Parthénope, ainsi que « Flore du Morvan » 625 espèces illustrées chez Naturalia Publications. Nous aurons l'occasion de déambuler dans le beau patrimoine historique de Bourgogne avec Jean-Marc Beck qui signe des pierres en Bourgogne ou 100 édifices par leur histoire. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire d'un certain nombre de châteaux du département de l'Yonne, notamment le château de Druy-les-Pellefontaines, le château de Mosnes, le château d'Ancilfranc, le château de Noyères-sur-Serein ainsi que le château de Saint-Fargeau. Et puis nous nous rendrons, grâce à l'architecte Cyril Brulé, à Saulieu, où se trouve toujours ce que l'on appelle la maison du Corbu. En fait, il s'agit de la maison Bandelier qui a été dessinée par un disciple de Le Corbusier qui s'appelle André Wojcinski, et cela donne un très beau livre écrit en collaboration avec Christelle Lecoeur chez Bernard Chauveau Édition, La maison Bandelier, André Wojcinski à Saulieu. Vous en saurez un petit peu plus au cours de ce numéro de Wagon Livre. Mais on va ouvrir cette émission toujours dans l'actualité patrimoniale de Saulieu, puisque l'an prochain, la basilique Saint-Andoche de Saulieu fêtera ses 900 ans. Et à cette occasion, Sandra Amani, auteure, et Isa Piton, dessinatrice, ont réalisé aux éditions Vent du Morvan une superbe bande dessinée intitulée « Le songe de Charlemagne, 900 ans de la basilique Saint-Andoche ». Et effectivement, pour me rendre à Saulieu, j'ai traversé le petit village de La Roche-en-Brenil. La Roche-en-Brenil, un village absolument évocateur pour Sandra Amani, dont la plume malicieuse raconte les 900 ans de la basilique Saint-Andoche. Sandra Amani à notre micro.
Ah, bien sûr, c'est le village de mon enfance. C'est le village aussi où se sont construites beaucoup de mes légendes.
Alors, un nouvel ouvrage, c'est une bande dessinée, Le songe de Charlemagne, 900 ans de la basilique Saint-Andoche. Tu es la scénariste et Isa Piton a réalisé toutes les illustrations de ce très bel ouvrage que je te demande de nous présenter peut-être un peu d'abord, dans un premier temps. On le trouve partout, en Bourgogne, chez les libraires, maisons de la presse.
Oui, bien sûr. Alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui, en ce dimanche 28 octobre, fête du livre de Saulieu, nous sommes en sortie avant-première de cette bande dessinée. Alors, elle est très très belle, l'histoire de cette bande dessinée, parce qu'en fait, Saulieu va fêter les 900 ans de sa basilique à partir de janvier 2019. Et Anne-Catherine Loisier, sénatrice de Côte d'Or et également amie d'enfance, m'a demandé si je voulais écrire un scénario sur les 900 ans de la basilique. Alors, n'étant pas historienne, comme tu le sais, hein, Yannick, j'ai beaucoup, beaucoup hésité parce que j'avais peur de faire des bêtises. Hein, dans ce domaine, on ne s'essaye pas. Et donc, une association, les Amis du Vieux Saulieu, trois historiens de cette association se sont proposés donc de me faire un fil conducteur. Après, il a fallu que je trouve une illustratrice et j'ai été subjuguée par les dessins d'Isabelle Piton. D'Isa Piton, d'ailleurs, pour son pseudo. Et la collaboration a commencé, une très, très belle collaboration.
Alors, Le 24 septembre, c'est la fête patronale en hommage de Saint Andoche. Mais qui était Saint Andoche, Sandrine ?
Saint Andoche, c'est l'un des martyrs grâce auquel, il y a eu Saint Roch aussi, hein, grâce auquel s'est construite cette basilique, l'un des auteurs de la basilique, de la première basilique.
Alors actuellement, dans la basilique Saint-Andoche de Saulieu, il y a en marbre le sarcophage de Saint-Andoche, mais qui a été en fait sculpté par un artiste bourguignon, mais dans les années 50.
Oui, c'est vrai. En plus, il a une histoire très très particulière, ce sarcophage. Donc, on ne va peut-être pas en révéler plus, puisque je le raconte aussi dans la bande dessinée. Cette basilique renferme de nombreux trésors, et parmi ceux-ci, moi je vais citer les chapiteaux. Des chapiteaux magnifiques, de style roman, avec des passages de la Bible, mais magnifiquement représentés. Et très très bien reproduits par Isa Piton d'ailleurs.
Des chapiteaux qui font concurrence à ceux de Vézelay par exemple ? Parce qu'il est question de concurrence aussi entre la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, Vézelay. À quel moment la basilique Saint-Andoche de Saulieu devient-elle véritablement un lieu de pèlerinage ?
Je crois qu'elle a toujours été lieu de pèlerinage, puisque depuis le départ, de toute façon, depuis l'église de base, les gens par étapes. Parfois, il pouvait se passer deux siècles sans qu'il y ait de pèlerinage. Et soudain, nouveau regain pour Saint-Andoche, pour Saulieu. Tout dépendait. Les guerres de religion, par exemple. Un élan vers Dieu, soudain, pour les gens de l'époque. Alors, tu parlais de concurrence. Moi, je ne pense pas qu'il y ait concurrence, puisque je connais très bien aussi la basilique de Vézelay. Moins la basilique Saint-Lazare à Autun. Je trouve plutôt que ce sont deux églises qui sont des magnifiques joyaux.
Parlons de complémentarité, peut-être, plutôt que de concurrence dans ce
cas.
Tout
à fait, c'est ça. Oui.
Alors, Sandra, pourquoi le songe de Charlemagne ?
Alors, le songe de Charlemagne,
de la bande dessinée.
Le songe de Charlemagne, c'est l'une des légendes qui va sortir dans mon tome 3, des légendes du Morvan, qui va paraître très bientôt aux éditions Temps Impossible. Maintenant, je le révèle, hein, je peux le révéler. Et en fait, c'est parti de là, cette basilique. C'est parti, finalement, d'un songe que l'empereur Charlemagne a fait lors de ses campagnes. Il s'est arrêté dans la forêt, aujourd'hui Bois de Brenil, dans la forêt de Saulieu. Un sanglier a tenté de l'attaquer, mais en fait, il s'est arrêté net, le sanglier. Et Charlemagne a vu là l'œuvre de Dieu et s'est dit « Je dois faire construire une basilique en ce lieu ».
Cette bande dessinée est vraiment passionnante, Sandra, parce que bien sûr, elle couvre toute l'histoire et les différentes aventures et malheurs de cette basilique qui a, au moment des guerres de religion, failli être détruite. Mais puisque Anne-Catherine Loisier est là,
oh,
Anne-Catherine,
super.
Venez, madame la sénatrice.
Bonjour, Nannou.
Puisque vous vous connaissez bien toutes les deux.
Excusez-moi, j'ai fait l'éruption.
Anne-Catherine Loisier, bonjour.
Bonjour. Vous voyez, mon amitié pour Sandra m'a
transportée jusqu'ici.
Portée jusqu'à toi et je n'ai pas fait attention que tu étais en pleine interview, donc toutes mes excuses.
Un petit mot justement sur cette bande dessinée qui célèbre les 900 ans de la basilique Saint-Andoche de Saulieu.
Eh bien écoutez, nous sommes très fiers, d'abord très fiers et très honorés du travail qu'ont réalisé Sandra et Isabelle, qui est vraiment superbe et qui va au-delà de nos espoirs, parce que l'objectif c'est vraiment de toucher un très large public et de raconter la formidable histoire de cette basilique qu'on a l'habitude de voir et finalement qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Et grâce à cette BD, eh bien, on espère pouvoir pénétrer dans le quotidien d'un tas de lecteurs qui ne se soucient pas forcément au quotidien d'une basilique, mais là qui vont découvrir tout ce qui s'est passé dans ces murs et toute l'histoire et toute la richesse qu'elle traduit. Donc vraiment un grand, grand plaisir et je pense que c'est un très bel ouvrage et je suis persuadée qu'il va conquérir le cœur de beaucoup de lecteurs.
Un très bel ouvrage qui effectivement est aussi un exercice de vulgarisation, Sandra.
Oui, c'est vrai, oui.
Je ne sais pas, tu semblais en douter ici, moi je trouve ça extrêmement réussi puisque...
J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que j'ai énormément travaillé. C'est vrai que ça m'a donné un plaisir fou, mais aussi un travail fou.
Et comment s'est passé le travail entre le passage, je dirais, de scénariste, le scénario, à l'illustration ? Comment a-t-on conservé l'essentiel, les grandes étapes ? Il a fallu faire, j'imagine, des choix, peut-être parfois même draconiens et douloureux ?
Alors, j'ai eu la chance de travailler justement avec quelqu'un qui a complètement respecté les volontés de mon scénario, sans jamais mettre d'entrave. Donc on ne se connaissait pas, donc c'était un pari, mais Isa jouait plutôt un rôle de conseillère, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Isabelle est également l'illustratrice de Marie-Antoinette, et c'est une très très bonne historienne. Et donc là aussi on va parler de complémentarité. Donc Isa m'aidait à faire les choix.
Complémentarité et complicité. Sandra, je rappelle donc Le Songe de Charlemagne, donc cette bande dessinée consacrée aux 900 ans de la basilique Saint-Andoche de Saulieu, avec à l'extrême fin de l'album un dossier documentaire et iconographique très, très riche, qui rappelle l'histoire des stalles, l'histoire du sarcophage de Saint-Andoche, une partie documentaire.
L'orgue, le bel orgue aussi, une photo de l'orgue de la basilique à la fin de l'ouvrage également. Et je dois te dire aussi, Yannick, que je découvre avec toi cette BD. Et c'est très très émouvant de tenir entre ses mains un ouvrage aussi beau.
Merci Sandra de nous avoir consacré du temps. Et donc, prochain ouvrage, alors tu en rappelles juste les références, c'est aux éditions Temps Impossible.
Légendes et mystères de Bourgogne, donc le volet 3 des légendes du Morvan. Légendes et mystères du Morvan. Je suis très émue, Yannick, hein, d'être devant toi. Le volet 3 des légendes du Morvan. Aux éditions Temps Impossible, fin novembre.
Rencontré le 28 octobre dernier à l'occasion de la 11e fête du livre de Saulieu, c'était Sandra Amani à notre micro pour évoquer donc cette bande dessinée qui a été réalisée avec l'illustratrice et dessinatrice Isa Piton à l'occasion des 900 ans de la basilique Saint-Andoche. Cette bande dessinée éditée par Vent du Morvan est disponible dans différents points de vente en Bourgogne à pour titre Le Songe de Charlemagne, 900 ans de la basilique Saint-Andoche. Une très belle bande dessinée qui peut être, me semble-t-il, un original et pertinent cadeau de Noël. Une bande dessinée accompagnée d'un remarquable dossier documentaire et iconographique. On va marquer une première pause musicale à bord de Wagon Livre et juste après, nous ferons connaissance avec une maison qui, à Saulieu, est désignée souvent par ses habitants comme la maison du Corbu. Pourtant, c'est une maison qui a été pensée, dessinée et créée par un architecte disciple de Le Corbusier. Cet architecte s'appelle André Wojcinski et nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus avec l'auteur d'un livre sur cette maison qui s'appelle La Maison Bandelier, Cyril Brulé, lui-même architecte à Saulieu. Très belle fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en cette fin de matinée d'être avec nous sur Radion pour le compte-rendu de la 11e fête du livre de Saulieu. Juste avant, nous étions dans l'histoire avec Sandra Amani pour évoquer la basilique Saint-Andoche de Saulieu. Eh bien, nous restons à Saulieu encore pour évoquer une maison originale qui à Saulieu est connue comme étant la maison Bandelier. D'ailleurs, un jeune architecte de Saulieu a décidé de s'intéresser à cette maison Bandelier qui a été pensée, créée, imaginée par un disciple de Le Corbusier, André Wojcinski. Cela donne un très beau livre, richement illustré, écrit en collaboration avec Christelle Lecoeur. La maison Bandelier, André Wojcinski à Saulieu. Sans tarder, faisons connaissance avec l'auteur de cet ouvrage, disponible chez Bernard Chauveau Éditions, Cyril Brulé.
Je suis un jeune architecte d'une quarantaine d'années, donc originaire du Morvan. Je suis né à Autun et j'exerce à Saulieu, donc architecte rural, architecte des champs.
Alors je suis très heureux de vous rencontrer parce que finalement avec cette publication, on croit qu'il y a une maison du Corbu à Saulieu. Et finalement, vous apportez une vérité ou en tout cas un correctif à ce qui est communément admis ici en Côte d'Or et notamment à Saulieu.
Oui, c'est ça qui me frappait, c'est que les gens parlaient de la maison du Corbu, la maison du Fada, on entend ça aussi dans Saulieu. Et j'ai voulu gratter parce que Le Corbusier, c'est une figure tutélaire pour tout architecte. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un d'important. Et effectivement, c'est une enquête qu'on a menée avec Christelle, finalement, sur les traces remontées à la commande et voir que effectivement c'était au tout début une commande faite à Le Corbusier. Le vétérinaire s'adresse à Le Corbusier. Et puis très vite, c'est André Wojcinski qui prend la relève et qui se charge de construire la maison.
Donc la famille commanditaire de cette maison particulièrement originale, qui est d'ailleurs représentée par un grand nombre de photographies à l'intérieur de ce livre extrêmement, j'allais dire, érudit, très fourni en documents d'époque. Cette famille Bandelier est une famille originaire de Saulieu ?
Oui, c'est une famille du Morvan. On la retrouve à Semur, on la retrouve à Menserre aussi, un petit village du Morvan. Et puis Saulieu, donc c'est ce qu'on appelle un notable local. C'est un vétérinaire, Bernard Bandelier. Donc c'est quelqu'un de très important dans un chef-lieu comme ça, rural. Tout le monde va chez Monsieur Bandelier, pas pour faire soigner son chien ou son chat à l'époque, c'est pour le bétail, pour les vaches. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui sillonne toute la petite région, donc qui est très connu et assez, je dirais bizarrement, c'est ce qu'on a découvert en cherchant, c'est quelqu'un de très ouvert sur l'art contemporain de son époque, sur l'art moderne et sur l'architecture moderne.
Alors à quel moment doit-on situer le lien entre la famille Bandelier et l'architecte qui va être retenu pour la construction de cette originale maison?
Alors, août 1955, le vétérinaire prend sa plume, ou sa femme, puisque c'est souvent sa femme qui écrit à sa place, pour s'adresser à Le Corbusier en disant, on a trouvé la lettre et on l'a reproduit d'ailleurs, elle est très belle, c'est « Je voudrais une maison pour ma famille, pour moi et ma belle-mère, etc. » Et puis, c'est le mois d'août 55, Le Corbusier n'est jamais à son agence au mois d'août, il est dans le sud de la France. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'ils s'entendent ou pas, mais c'est André Wojcinski qui répond et qui dit « Écoutez, j'accepte de répondre à votre commande. Je suis des chantiers en ce moment dans la région lyonnaise, donc je passe par Saulieu très souvent. Ça me plaît. Si vous voulez bien, c'est moi qui vais me charger de construire votre maison. » Donc 55-56.
Alors, ce monsieur Bandelier, en faisant appel à Le Corbusier, non seulement on peut imaginer qu'il a les moyens en faisant appel à quelqu'un qui a une notoriété mondiale à ce moment-là,
oui.
Et qui veut vraiment une maison originale, ou alors il a une passion et un désir très fort pour Le Corbusier. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Le Corbusier chez Monsieur Bandelier?
Ah, c'est assez compliqué à expliquer. On a cherché. C'est quelqu'un qui était proche d'un prêtre de la Pierre qui vire, notamment. Donc on s'explique ça. Et la Pierre qui vire, à l'époque, était un foyer d'art moderne. Si vous connaissez le monastère, il y a une décoration très typique de cette année-là, de ces années-là, avec Marc Hénard, qui était un artiste proche dans cette mouvance architecte. Artiste. Et puis, c'est quelqu'un, Bandelier avait fait appel à un architecte local d'Autun auparavant pour ce projet. Et puis, il a vu la première esquisse et il s'est dit non, je ne peux pas faire construire ça, c'est trop classique, c'est pas moi. Et donc, avec son épouse, c'est vraiment un tandem créatif important, il s'adresse à quasiment le plus grand architecte à l'époque. C'est un peu innocemment, hein, c'est un peu naïf, parce qu'il n'y avait pas de lien. Ils envoient cette lettre. Ils se disent, à mon avis, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? On essaye. Et finalement, ça a pas mal marché, puisqu'ils ont André Wojcinski, qui à l'époque est dans les traces de Le Corbusier. Donc c'est vraiment revendiqué, veulent une maison de leur époque, des années 50-60, avec tout le confort moderne à l'époque, avec de grandes baies vitrées, avec les couleurs, avec ce matériau en béton très marqué. Hein, donc c'est une volonté radicale.
Une maison en tout cas qui n'a pas beaucoup d'identité morvandelle. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'elle casse un peu le paysage local.
Alors, on peut le voir de deux façons. Moi, je suis pas d'accord parce que elle emploie beaucoup le granit du Morvan. Ça, le vétérinaire y tenait. C'est lui qui a insisté. Donc, vous avez des pans de mur en granit et il n'y a pas plus morvandiaux que le granit. À l'intérieur, c'est la place qui est faite au bois. Un ébédiste local va faire tout le chantier, Bernard Buisson, qui va réaliser les placards, les portes, les dressings. Donc là encore, c'est le Morvan, c'est le travail du bois. Mais effectivement, sur la forme, c'est un cube, hein, toit-terrasse, des grands pans de mur très simples, très minimalistes. Donc pour moi, c'est une synthèse entre l'architecture traditionnelle du Morvan et les formes contemporaines.
Un mot sur André Vojanski. Donc, il est dans l'ombre de Le Corbusier, un propre élève du Corbusier.
Un disciple. On lui a toujours dit, vous êtes dans l'ombre, hein, tout au long de sa carrière. Il a disparu dans les années 2000. Et il disait, oui, je suis dans l'ombre, mais quel soleil! C'était un fervent adepte de Le Corbusier, un défenseur, quelqu'un qui a dirigé l'agence de Le Corbusier, qui était tout le temps en déplacement, Corbu. Il était en voyage dans le monde entier. C'était André Vojanski qui faisait tourner la boutique dans les années 40-50. En 56, c'est-à-dire au moment où il construit la maison de Bandelier, il s'en va. Il crée sa propre agence. Il restera toujours très proche de Le Corbusier, mais il va commencer sa propre carrière en étant dans les pas de Le Corbusier, dans cette écriture brutaliste, dans cette même écriture. Il utilise le modulor, hein, comme Le Corbusier. C'est ce rapport avec le nombre d'or qui permet de tout dessiner aux bonnes proportions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va poursuivre son propre chemin, mais dans la trace de Le Corbusier. Il va construire des bâtiments très importants, des hôpitaux, l'hôpital Necker à Paris, des sièges sociaux. Il va construire beaucoup au Moyen-Orient et il va finir sa carrière avec une grande université au Japon.
Ce qui effectivement est loin d'être négligeable.
Tout à fait.
Quelles sont les relations entre la famille Bandelier et l'architecte André Vojanski? Est-ce que les Bandeliers sont exigeants? Est-ce qu'ils ont la même conception de la maison? C'est difficile. Est-ce que Bandelier a dit à l'architecte, je veux une maison un peu cubique, je veux cela? Ou est-ce que c'est l'architecte qui propose des espaces nouveaux? Comment se passe le consensus et l'accord entre... Enfin, ma question peut paraître peut-être stupide,
m'adressant à un architecte
qui est confronté à cela, mais entre les désirs du client et l'architecte, le créateur, concepteur.
C'est toujours très actuel comme question, on se la pose tous les jours. Moi j'ai des clients qui arrivent et qui me disent « vous n'allez pas faire la maison que vous voulez, vous faites la maison que je veux ». Et on est toujours dans cet entre-deux. Vojanski a été assez clair au début, il dit « ok, j'accepte votre commande, il faudra me suivre ». Il y a quand même des principes sur lesquels l'architecte ne peut pas revenir, ces formes contemporaines, cette écriture. Mais Bandelier est très proche, peu à peu au fil de ces années, parce que ça va durer quand même 5 ans, hein, le projet, jusqu'à ce qu'il soit terminé entièrement. Il y a une relation d'amitié quasiment qui se crée. Les Bandeliers invitent fréquemment Vojanski à déjeuner quand il passe à Saulieu. Enfin, c'est une grande proximité et puis ils s'échangent beaucoup de lettres. Donc c'est une co-construction. Vojanski, je pense que c'est un de ses premiers projets seul et c'est très compliqué de construire une maison. C'est plus compliqué. Je dirais que c'est facile de faire un hôpital, un hôtel, un ministère. Une maison particulière, c'est extrêmement compliqué. On entre dans l'intimité du client. On devient forcément un peu partie de la famille. On peut s'affronter. Il y a une question de budget aussi, même si le budget était assez confortable. Il y avait de toute façon, dès le début, un budget limite. Et donc, c'est une très belle relation avec ses hauts et ses bas. C'est ce qu'on décrit. C'est vraiment ce qu'on a voulu décrire dans le livre. C'était au fil des lettres, on s'aperçoit que la tension monte, parce qu'évidemment, le chantier ne se passe pas comme prévu. C'est toujours classique, c'est un grand classique. Bandelier demande des recommandés, demande des mises en demeure aux entreprises. Vojanski s'exécute, puis il rappelle quand même qu'on est dans le Morvan, il y a un climat, on ne peut pas travailler à toute saison. Il y a des moments de tension, et puis ça s'adoucit, puisque le client rentre dans ses murs, et puis ça va mieux. Et puis garde le lien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années 60, on a toujours des lettres qui se sont échangées. Les Bandeliers aimeraient que Vojanski revienne faire un projet de collège à Saulieu. Il lui redemande une commande pour un plan de la ville. Ce que Vojanski va refuser, puisque on a vu, je vous l'ai expliqué, il a une carrière qui est fulgurante. Et donc dans les années 60, il est très pris, très occupé. Et c'est une très belle relation qui dure. C'est pas on vous rend les clés et c'est terminé, on se voit plus.
Alors, quelle est l'adresse de cette maison Bandelier à Saulieu?
Elle est Faubourg de l'Aussois, elle est rue Jean Bertin, mais je ne veux pas tellement vous en dire plus, elle est encore habitée cette maison.
Donc, et elle appartient donc toujours à la
voilà, aux enfants, ancêtres de, aux enfants de la famille du vétérinaire qui l'habitent toujours. Donc par respect pour leur intimité, voilà, il faut s'approcher. Vous prenez cette petite rue qui descend à côté de Bernard Loiseau et puis vous allez entreapercevoir cette maison, vous pouvez vous approcher mais pas trop.
Cyril Brûlé, vous l'avez visité forcément.
Oui, à de nombreuses reprises.
Quelle impression avez-vous ressenti en la visitant, en allant à l'intérieur, en découvrant ses volumes? Vous m'avez dit, il y a une manière de circuler dans cette maison. Impression de l'architecte que vous êtes?
C'est un tour de force, parce que c'est une maison assez petite, avec un programme compliqué, un laboratoire, un cabinet de vétérinaire, une maison, un appartement pour la belle-mère. Pour un architecte, c'est pas facile de combiner tout ça. Et néanmoins, Wojcinski arrive à faire des espaces très fluides dans lesquels on circule. Il y a une façon de tout ouvrir avec des parois coulissantes ou bien de refermer pour plus d'intimité. Et aujourd'hui encore, c'est une maison très moderne, très
elle
très
est fonctionnelle
adaptée,
encore en
très
2018.
Fonctionnelle aujourd'hui. C'est ce que tout le monde m'a dit. C'est ce que les... Maintenant, c'est la nouvelle génération. Il y a les petits-enfants de Bandelier qui adorent cette maison, qui s'y retrouvent. Les gamins adorent cette maison. Ils peuvent jouer, ils peuvent tourner autour de la cuisine. C'est vraiment... Et moi, j'ai interrogé beaucoup d'habitants de ce lieu qui ont pu y rentrer, qui ont des souvenirs. Ils m'ont tous témoigné de leur fascination et de leur intérêt, de leur attrait pour cette maison très ouverte sur le jardin, avec de grandes baies vitrées, mais néanmoins très chaleureuse.
Avant le début de cette interview, vous m'avez dit « Ce n'est pas un livre d'architecture, mais c'est un livre de ressenti. » C'est important de ressentir, c'est aussi un livre d'histoire, c'est aussi l'histoire d'une construction. Vous le montrez à travers la publication, la reproduction des échanges entre l'architecte et le couple Bandelier. Ce ressenti, c'est quelque chose que vous vivez intensément ?
Oui, on voulait surtout pas, avec Christelle Lecoeur, faire un énième livre d'analyse architecturale, s'attacher à l'objet exclusivement. Donc on a voulu faire parler les habitants. Et c'est en ça, moi, que je m'intéresse beaucoup aux maisons. Je fais des conférences souvent sur les maisons parce que ça parle à tout le monde. L'architecture contemporaine, c'est compliqué. On n'a pas, dans la population française, une grande culture architecturale. Mais par la maison, on arrive à faire rentrer les gens, à leur faire comprendre les concepts d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est donner la parole aux habitants, aux voisins, aux témoins de l'époque, et puis aujourd'hui aussi, aux gens qui ont traversé cette maison. Parce que c'est avant tout une histoire d'usage. On peut faire la plus belle maison du monde en photo. Si elle ne fonctionne pas, si elle n'est pas habitée, ça ne sert à rien.
Avec votre ouvrage, vous avez mis finalement un puissant coup de projecteur sur cette maison dans cette belle ville de Saulieu.
Oui, oui, oui. Au niveau national, effectivement. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait et qu'on commence cette collection lieu d'architecture avec la maison de l'architecture de Bourgogne. C'est pour mettre des coups de projecteur sur des pépites. Notre territoire est parsemé comme ça de pépites très intéressantes, pas forcément faites par des grands architectes, mais à chaque fois révélatrices d'une histoire. Et on a envie de mettre d'autres coups de projecteur comme ça sur des petites villes comme Saulieu. Saulieu était très connu pour la route nationale 6, François Pompon, la basilique. Et bien aussi, c'est une façon de dire, il y a du patrimoine du XXe siècle. On est en train de le redécouvrir, ce patrimoine, aujourd'hui. Hein. Le XXe siècle, ça ne fait pas si longtemps qu'on y était. Donc il y a un travail aussi de pédagogie à faire. Le béton, ces formes d'après-guerre, ce verre, des choses qui nous paraissent aujourd'hui à peu près normales et très banales. Eh bien non, en 56, c'était révolutionnaire.
Cyril Brûlé, architecte à notre micro pour la Maison Bandelier, André Wojcinski à Saulieu chez Bernard Chauveau Édition dans la collection Lieux d'architecture. Je rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les références, les titres et les noms des auteurs que vous entendez aujourd'hui dans Wagon Livre, eh bien c'est très simple puisque... À partir de votre ordinateur et après quelques clics, vous vous rendez sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre, www.yannickpetit.fr, et vous aurez réponse à vos questions et interrogations. Compte rendu de la 11e fête du livre de Saulieu ce matin.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous nous sommes rendus le 28 octobre dernier à la 11e fête du livre de Saulieu et nous y avons rencontré Patrick Vaucoulon, aquarelliste qui signe de très très beaux ouvrages consacrés à la flore et à la faune de Bourgogne mais aussi de la France de l'Est. Patrick Vaucoulon signe Flore rare et menacée de Bourgogne aux éditions Parthenope ainsi que Flore du Morvan, 625 espèces illustrées chez Naturalia Publications. Sans tarder, faisons connaissance avec Patrick Vaucoulon.
Bon, c'est un peu compliqué parce que la vie est assez longue maintenant. Disons, j'ai toujours été passionné par l'écologie, par la nature. Donc j'ai commencé très tôt à m'intéresser à toutes les sciences naturelles. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir partir en Antarctique pour étudier les manchots au CNRS au niveau écologie. Et ensuite, ma vie a bifurqué sur d'autres voyages dans le Grand Nord au niveau naturaliste. Et très vite, j'ai peint la nature. Donc j'ai peint les manchots en Antarctique, j'ai peint ensuite les lémuriens à Madagascar, où j'ai vécu 6 ans. Et en rentrant aussi, je suis passé, après une vie un peu aventureuse, je suis passé à l'école de bande dessinée d'Angoulême et j'ai fait 3 ans à l'école de bande dessinée d'Angoulême pour améliorer et pour mélanger la pédagogie que j'avais apprise en passant prof de sciences naturelles à une certaine époque, avec le côté scientifique que j'aime bien aussi et le côté image, illustration. Et à l'heure actuelle, donc je mélange ces trois direction pour faire des livres de vulgarisation qui mélangent le côté visuel, le côté artistique et là aussi toujours le côté scientifique.
Alors, des livres extrêmement élégants, vous qui êtes aquarelliste. Alors parlons de Flore rare et menacée de Bourgogne, paru en 2013 aux éditions Parthenope. C'est des éditions qui sont en association avec le...
C'est une publication du Muséum de Paris, donc régulièrement, donc ça donne une étiquette scientifique. Et ce livre a été aussi une commande, entre guillemets, de la région Bourgogne. Monsieur Patria, à l'époque, parlait beaucoup de biodiversité, un peu avant l'heure même. Et donc ce livre est un livre presque de 600 pages, donc c'est un pavé qui illustre l'état de la biodiversité en Bourgogne et aussi l'appauvrissement de beaucoup d'espèces qui disparaissent finalement de notre patrimoine.
Alors beaucoup d'inquiétudes à avoir encore ?
Alors les inquiétudes, je ne sais pas, parce que si on regarde, si on est biologiste et qu'on regarde sur des millions d'années, l'homme n'est qu'une petite, un petit événement. Donc à l'heure actuelle, surtout c'est préoccupant pour l'humanité, pour l'homme de voir toutes ces choses disparaître, mais autrement des crises écologiques dans l'histoire, il y en a eu et donc, disons, sur le long terme, en millions d'années, c'est pas très grave. Pour l'instant, par contre, dans les dizaines d'années qui viennent, c'est beaucoup plus grave.
Il y a un grand débat autour des insecticides, des pesticides. La Bourgogne n'est pas épargnée.
Ce livre-là, en une trentaine d'années, la plupart des plantes des moissons, par exemple, qui étaient très communes. Alors, tout le monde voit le coquelicot, mais il y a l'adonis, il y a la nigelle, il y a la nielle des blés, il y a les delphiniums, énormément d'espèces qui étaient très courantes pour nos grands-parents, qui étaient vraiment des plantes vulgaires au sens commun et qui maintenant ont été carrément éradiquées. Il faut aller sur les côtes du Larzac ou aller dans des régions où l'agriculture n'est pas extensive pour voir encore ces espèces.
Alors, plus récente publication, c'est même votre dernier ouvrage. Il a pour titre « Flore du Morvan, 625 espèces illustrées ». Attention, hein, pas menacées, hein, 625 espèces illustrées, toujours par Patrick Vaucoulon. C'est chez Naturalia Publications. Alors là encore, un travail d'une grande finesse, observation, passion et art s'entremêlent
toujours,
harmonieusement.
En Antarctique, j'ai dessiné les manchots. Donc l'Institut Polaire m'avait demandé aussi de retourner pendant le tournage du Peuple Migrateur, de peindre les manchots, les albatros. Et dans ma région, j'avais envie de voir, de me faire plaisir en me disant, dans ma vie, j'aurais vu toutes les plantes de ma région. Et depuis une dizaine d'années, j'ai peint 1850 aquarelles, espèces de plantes, de tout le Grand Est de la France. Et là, je voulais m'essayer, avant de faire un très gros livre avec toutes ces espèces, je voulais m'essayer sur un livre plus petit pour le grand public, un livre qui permet aux randonneurs, aux promeneurs, aux touristes, aux amoureux de la nature morvandelle de pouvoir avoir une très bonne information.
Alors, je lis la quatrième de couverture de l'ouvrage intitulé « Fleurs du Morvan, 625 espèces illustrées ». Les particularités climatiques et l'acidité des sols ont pourtant permis le maintien d'associations végétales passionnantes et originales. Le Morvan a su conserver des milieux rares comme ses tourbières, véritables reliques des périodes glaciaires.
Oui, il y a 12 000 ans, à l'endroit où on est, c'était encore l'époque des mammouths, de la toundra et différentes plantes. Et avec le changement climatique qui s'est déjà fait il y a 12 000 ans, on est passé d'une période très froide de post-glaciaire à une période actuelle beaucoup plus chaude. Je ne parle pas de l'époque d'aujourd'hui, mais il y a eu évolution et les flores ont évolué. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que dans le Morvan, il y a encore des micro-milieux où les plantes sont des plantes qui datent de l'époque des mammouths, des rhinocéros lénés, montagneux et de toute cette faune froide, disons, que maintenant, ces plantes, eh bien, sont des reliques, sont donc relictuelles sur notre région. Pour les trouver, il faut aller dans le Grand Nord, il faut aller en Laponie, il faut aller en Sibérie. Et ces plantes sont restées, en fait, piégées dans des micro-milieux. Et ces plantes sont également menacées, puisque non seulement avec le réchauffement climatique, mais vous avez parlé des pesticides ou des produits phytosanitaires, mais il y a aussi un gros problème qui se passe en Morvan, c'est le drainage, où l'homme en général, pas qu'en Morvan, l'homme n'aime pas l'eau. Il faut jeter l'eau, on ne veut pas des inondations, donc on jette l'eau dans la plaine de la Saône, il faut vite que ça aille en Camargue et que ça aille en Méditerranée, et puis en été, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'eau. Or, ces milieux comme les tourbières, ce sont des éponges, tous ces marais, toutes ces zones humides, sont aussi des milieux qui ont été énormément détériorés par l'homme depuis une cinquantaine d'années.
Mais alors, quid du réchauffement climatique? Il est réellement là?
Alors, le réchauffement climatique, pour moi, il n'existe pas. Il n'y a pas de réchauffement climatique. On a fait, j'appelle ça l'effet Schtroumpf. En fait, on a complètement mis le climat en sens-dessus-dessous. C'est-à-dire que maintenant, les saisons, mon bon monsieur, ne sont plus celles qu'elles étaient. Et en fait, on a déréglé. Alors, je dis l'effet Schtroumpf parce qu'il y avait une bande dessinée des Schtroumpfs où les Schtroumpfs avaient inventé une machine pour régler le climat. Et l'un voulait de l'eau pour sa salade, l'autre voulait du soleil pour ses tomates. Et en fait, à force de jouer sur la machine, eh bien, il neigeait n'importe quand, il pleuvait n'importe quand, et c'est un peu ce qu'a fait l'homme. Donc, si c'était un changement climatique, ça voudrait dire que finalement la Terre change et le climat va changer. Donc, on pourrait se dire tout va bien. Là, le problème, c'est qu'il y a un dérèglement en chronologie. Les insectes ne se reproduisent plus au même moment que les oiseaux, que les fleurs, ce qui fait que les mésanges ou les passereaux ont disparu à 80% l'année dernière en Bourgogne. Tout simplement parce que au moment où ils avaient leurs petits, eh bien, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'insectes à manger.
Patrick Vaucoulon, j'ai 47 ans, adolescent, je me rappelle sur le pare-brise du véhicule de mon père, quand on partait en vacances et qu'on s'arrêtait dans une station-service, oui. Il y avait plein d'insectes collés au pare-brise. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Non, à part la pyrale, là, si vous allez à côté de Dijon au mois d'août, sur votre pare-brise, vous avez l'impression qu'il neige tellement, il y a le papillon de la pyrale du buis qui s'écrase aussi, qui est une espèce invasive qui vient d'apparaître de Chine et qui est en train de faire disparaître le buis sur une bonne partie du territoire français. Mais c'est vrai, ça c'est une observation. Mais pareil, quand vous étiez plus jeune, dans les fermes, moi j'habitais en Bourgogne, j'habitais dans Lyon et ma tante, un petit village à côté de Sens, eh bien, quand on allait dans sa ferme, il y avait des dizaines de nids d'hirondelles. Maintenant, les hirondelles, alors on en voit encore, mais pour ainsi dire plus. Les mésanges, on en voit encore, mais pour ainsi dire plus. Et le gros problème de notre société, c'est que la vision des gens qui vivent en ville, de plus en plus, ne voit pas que petit à petit, des choses qui étaient extrêmement communes et banales. Le moineau, le simple petit moineau, est en train de disparaître de différents endroits de France.
Mais ce qui est surprenant, c'est que par exemple, il y a des colonies d'abeilles dans des villes maintenant. Il semblerait que les abeilles se réfugient sur le toit des immeubles et il semblerait que finalement, sur le toit des immeubles, ce soit plus sain qu'à la campagne.
Oui, c'est possible.
Ne généralisons pas.
C'est possible aussi, mais il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas les abeilles s'il y a avec les toits d'immeubles en béton pour alimenter les... Alors, le problème qui avait été fait aussi à l'époque avec François Patria et quand on a fait le livre sur les espèces menacées, c'est qu'aussi, un des gros problèmes des menaces futures, c'est que les villes deviennent des barrières pour le déplacement de la flore et de la faune. Et un des programmes qui devait se faire sur Dijon aussi, ce sont les corridors écologiques, c'est-à-dire permettre aux insectes, permettre aux animaux, aux oiseaux, y compris aux cerfs ou aux renards, de pouvoir traverser une ville et que les villes ne deviennent pas des murs.
Patrick Vaucoulon, puisque je vous ai devant le micro, qu'est-ce que vous pensez de cette politique qui consiste à réintroduire les animaux? Je pense au lynx, je pense à l'ours. Quel est votre regard, vous qui aimez tant
Mon regard, c'est un peu particulier et je suis mal placé pour le dire, puisqu'en 1983, c'est moi qui ai payé, en faisant une bande dessinée, j'ai payé le premier lynx qu'on a réintroduit dans la vallée de Münster, dans les Vosges. Donc, et à l'heure actuelle, je travaille avec l'association Férus, qui vient de réintroduire des ours dans les Pyrénées, et nous sommes en train de faire une exposition avec le muséum de Sighet en Roumanie et avec l'ambassade de Roumanie à Paris, puisque IKEA est en train de affiche en l'air les dernières forêts primaires de l'Europe, où il y a du loup, du lynx du grand tétras et de l'ours. Et au nom de meubles pas chers, ils sont en train de descendre des forêts qui ont des arbres de 600 ans d'âge. Donc pour moi, la réintroduction, c'est une chose absolument normale. On paye des fortunes pour réparer la cathédrale de Strasbourg, qui est en grès rouge et qui se détruit, les sculptures se détruisent tous les 50 ans, puisque le grès est fragile. Et on est capable de mettre des fortunes pour réhabiliter notre patrimoine de cathédrales, etc. Et on n'est pas capable de mettre quelques loups qui vont manger quelques centaines de moutons dans l'année, alors qu'il y a 400 moutons qui meurent tous les jours de mort naturelle et qu'on met à l'écarissage, et que ça coûte, et qu'on jette énormément de moutons dans les cantines quand les enfants ne mangent pas le mouton, ou qu'on jette énormément de moutons dans les supermarchés quand la date est périmée, et qu'on n'est pas capable de donner quelques milliers de moutons qui coûtent rien du tout par rapport au patrimoine qu'on peut avoir naturel qui est extraordinaire.
La prise de position est bien passée, Patrick Vauclon.
Net. Même si c'est difficile, hein, mes amis qui sont dans le Larzac, je ne suis pas du tout outrancier, écologiste outrancier. J'ai des amis qui font de la chèvre et qui font du fromage de brebis. Et il est clair que quand vous avez des loups qui viennent perturber un troupeau de brebis qui fait du lait, et ben, la semaine d'après, il n'y a plus de lait. Donc économiquement, mais ça, ce n'est pas de la faute du loup, c'est de la faute de l'État qui devrait gérer les problèmes écologiques.
Merci Patrick Vauclon. Je rappelle le titre des deux ouvrages, en tout cas des deux derniers. En 2013, donc Flore rare et menacée de Bourgogne, distribution, écologie, conservation, collection Parthenope, hein, une publication scientifique du Muséum de Paris. Et puis ce très bel ouvrage, très lourd, très riche, très dense, très raffiné aussi. Donc Flore du Morvan, 625 espèces illustrées. C'est chez Naturalia, publication. Bon salon Patrick, et merci,
Du
temps que vous nous avez consacré.
Merci aussi de m'avoir donné la parole. C'est toujours bien de pouvoir... Les livres servent aussi à communiquer avec le public, mais il est vrai aussi que la radio, la télévision, j'ai toujours aimé pouvoir donner, sans extrémiste dans mes propos, donner un avis de quelqu'un qui aime sa région et qui a envie que ça dure.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous nous sommes quittés avec Patrick Vauclon, rencontré lors de la 11e fête du livre de Saulieu. Je rappelle les titres des deux ouvrages dont il a été question et qui, eux aussi, peuvent être de très beaux cadeaux de Noël que l'on peut glisser sous le sapin. Flore rare et menacée de Bourgogne aux éditions Parthenope, et Flore du Morvan, 625 espèces illustrées chez Naturalia Publications. Nous allons maintenant vous emporter vers le patrimoine des châteaux de Bourgogne et notamment des châteaux de Lyonne, puisque Jean-Marc Bec, que j'ai rencontré à Saulieu, est l'auteur de « Des pierres en Bourgogne où 100 édifices par leur histoire ». L'occasion d'évoquer l'histoire de châteaux extrêmement connus de Lyonne ou peut-être mal connus, les châteaux de Mône, d'Ancy-le-Franc, de Druy-les-Belles-Fontaines, de Noyères-sur-Serein ou encore le château de Saint-Fargé. Mais tout de suite, faisons connaissance avec l'auteur, Jean-Marc Bec.
Je suis actuellement à la retraite, ce qui m'a poussé à reprendre des activités dans le domaine où j'excellais dans le temps, c'est-à-dire dans l'archéologie, archéologie gréco-romaine, en versant petit à petit vers le Moyen-Âge, enfin dans l'histoire médiévale. Et je suis particulièrement intéressé par les pierres de Bourgogne sur nos quatre départements et particulièrement dans un domaine de pierres dont on ne parle pas souvent, c'est-à-dire les châteaux de toutes les époques qui ont aussi bien pu être construits depuis l'époque romaine, mérovingienne, carolingienne et surtout au Moyen-Âge à partir de l'an 1000. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus. Et j'essaie d'être très actuel sur ce qui se passe aujourd'hui dans les châteaux.
Alors, ce qui nous intéresse, et on va se pencher sur des châteaux de Lyonne, si vous le voulez bien, oui, par rapport à cette émission Wagon Livre qui est diffusée dans le département de Lyonne. D'abord, le château de Druy-les-Belles-Fontaines.
Alors, le château des Druy-les-Fontaines, il est un peu oublié dans Lyonne. Il était à une vingtaine de kilomètres d'Auxerre. Et l'association qui s'occupe de ce château aimerait bien que les gens s'y intéressent un peu plus qu'on ne le fait d'habitude. Mais c'est un peu naturel qu'on l'oublie un peu pour Saint-Fargeau, parce que le château de Saint-Fargeau est quand même un édifice qui est emblématique de Lyon et très visité.
Alors, que dire de ce château de Druy-les-Bellefontaines ?
Bon, ce château de Druy-les-Fontaines, à part quelques structures qui ont été démolies, est un édifice qui est encore assez complet, qui date du XIe siècle et qui a appartenu au roi de Jérusalem, c'est-à-dire la famille de Courtenay, et qui ensuite a été abandonné petit à petit, suivant les différents propriétaires qui ont fait beaucoup de transformations dans ces châteaux. Mais j'aime beaucoup ce château-là parce qu'il a encore gardé son enceinte qui est quand même très haute, à peu près une vingtaine de mètres sur tout son pourtour, et qui n'est pas tout à fait, et même pas du tout, en ruine, qui est très bien géré, très bien entretenu par l'association qui s'en occupe.
Alors le château de Saint-Fargeau qui... tout de même est prestigieux dans le département de Lyon. Alors oui, c'est vrai que Jean d'Ormesson y a passé une partie de son adolescence.
Oui, oui, oui. Ben, c'est le château qui est très emblématique de Lyon. Les gens viennent uniquement pour celui-là, à défaut d'en voir quelques autres qui mériteraient bien d'être connus aussi. Même au sud, le château de Chastellu.
Oui, le château de Châtelus, mais alors là, on est dans le pays avallonné, effectivement.
Ah, on est
oui.
dans le pays avallonné, et à quelques encablures, vous trouverez également le château de... comment dire, le château de Vauban, comme on dit, Bazoches.
À Bazoches, dans la Nièvre, voisine.
Oui. Dans la Nièvre, qui est très visité.
Alors, le château de Saint-Fargeau, spécificité de ce château, quelques éléments.
Alors, 17e siècle, qui est un château féodal qui a été reconstruit par la grande... demoiselle, cousine de Louis XIV, au moment de son exil, pour avoir tiré pendant la Fronde sur les troupes du roi à la porte Saint-Antoine. Elle était très amoureuse du prince de Condé, me semble, si mes souvenirs sont exacts. Et cet amour-là lui a coûté le trône de France, auquel elle pouvait prétendre, étant une très grande personne parmi les plus riches de l'époque.
Alors, il est l'un des plus beaux villages de France. Je veux parler de Noyères-sur-Serein. Alors, à Noyères-sur-Serein, il y a le vieux château tout en haut du village.
Oui,
hein. Il faut
oui.
faire quelques efforts physiques, d'ailleurs, pour s'y rendre.
Faire quelques efforts physiques. Et il faut surtout connaître le chemin pour s'y rendre. Parce que ce n'est pas toujours évident. On peut le tenir par en bas par des petits chemins. Et à une certaine époque, c'était un très, très, très grand château. D'ailleurs, un des principaux qu'on pouvait trouver dans Lyon.
Et d'ailleurs, il ne subsiste que des vestiges.
Quelques traces, oui, quelques vestiges qui sont en cours de restauration aujourd'hui pour essayer de restaurer au moins une enceinte sur les 4 ou 5 qu'elle comportait. Donc, vu l'importance de ce château.
Alors, il y a un château auquel le département de Lyon est très attaché. C'est le château de Mosne. Alors, on est plutôt dans le Tonnerrois, là.
Ah, oui. Alors, le château
de
Mosne
a une forme particulière.
Eh bien, c'est-à-dire qu'il a été construit par un architecte militaire, enfin, pas un architecte, un ingénieur militaire italien qui avait été appelé par Sebastiano Serlio, qui construisait à ce moment-là le château d'Ancy-le-Franc. Et comme le comte d'Uzès, qui n'était pas encore duc, cherchait un constructeur renaissance pour lui construire un château dans cette partie de Lyon, a effectivement fait appel à un de ses amis, qui était, comme je disais, architecte ou ingénieur militaire, qui lui a construit un château en forme d'octogone tout haut d'une colline. D'ailleurs, on le voit très bien, il est purement Renaissance et a été construit dans les années 1570. Et c'était un château qui a une forme unique, c'est-à-dire octogonal comme une forteresse militaire. Il a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas de cour centrale. Mais il en existe un autre qui a une cour centrale qui est en Italie. Celui-là n'a qu'un puits central, c'est-à-dire que l'eau arrivait par en dessous et remplissait le... remplissait le puits sans que les propriétaires ou les serviteurs n'aient eu besoin de sortir à l'extérieur pour chercher de l'eau. Donc tout se passait à l'intérieur de ce château, qui a été construit en pierre blanche, donc très lumineuse, et qui a encore subsisté aujourd'hui. Malheureusement, les dépendances ont toutes été démolies, aux guerres de religion et suivantes.
Alors, vous avez parlé du château d'Ancy-le-Franc, un très beau joyau dans le Tonnerrois, là encore.
Ah oui, alors là, c'est le grand joyau, un diamant parmi tous les châteaux Renaissance qui a été construit à cette époque-là. Une très belle architecture au centre d'un parc qui est très, très intéressant, dont je ne me rappelle pas le nom du paysagiste qui l'avait construit, mais qui a un renom formidable justement par l'architecte qui l'a construit, qui connaissait éventuellement un autre architecte qui avait beaucoup travaillé à l'époque, mais en Italie surtout, et qui écrit quelques livres.
Parlons du château d'Ilan. Alors, c'est en pays avalonnais.
Oui, au nord d'Avalon, qui était une véritable forteresse militaire, accrochée sur un piton rocheux, une avancée rocheuse, qui est, on va dire, qui est très grand à l'époque, dont certaines parties ont été détruites et d'autres qui ont été conservées par les propriétaires actuels, qui tentent tant bien que mal de restaurer, de le maintenir dans un parfait état d'entretien.
Alors, autre ville dont le château compte et vous semblez y être attaché, c'est Joigny.
Alors, Joigny, c'est ou c'était un château Renaissance, enfin un château féodal, et qui a été reconstruit sous l'époque de la Renaissance, dont une bonne partie a été détruite, rasée, pour se coller à l'art classique, Louis XIVe, Louis XVe. Mais il reste encore de belles proportions datant de cette époque-là. D'ailleurs, il y a eu de curieuses histoires d'achat, de vente et d'expropriation, de spoliation, etc.
Alors, à quelques kilomètres de Villeneuve-sur-Yonne, vous m'avez fait connaître un château qui est le château de Paletot.
Oui, alors le château de Paletot, aujourd'hui, c'est devenu un centre équestre pour poney, il me semble bien, et qui, à l'époque, appartenait à un gouverneur de la Bastille, qui avait la charge du masque de fer, dont on ne connaît toujours pas l'identité aujourd'hui. Et à l'époque, un gouverneur qui avait un prisonnier de marque, un prisonnier important, quand il a été muté à l'île Sainte-Marguerite, il était tellement en charge, il avait tellement la responsabilité de ce prisonnier, qui l'emmenait dans ses pérégrinations, ce qui fait que le château de Paletot, lui appartenant, il a logé le masque de fer une nuit dans ce château-là avant de repartir vers l'île Sainte-Marguerite.
En feuilletant votre ouvrage, dont je rappelle le titre, hein, « Des pierres en Bourgogne où 100 édifices parlent leur histoire », donc de Jean-Marc Beck, il est question aussi du grand hôtel de la Cloche, place d'Arcy à Dijon.
Ah,
alors
oui.
Là aussi, sacré édifice au cœur de la ville,
oui.
De la capitale des Ducs de Bourgogne.
Oui, qui a failli être détruit dans les années 60 pour faire plus moderne. Bon, il était dans un tel état de vétusté que on a tout fait pour qu'il ne soit pas détruit et qu'il soit restauré pour faire au moins un des hôtels les plus prestigieux de Dijon, si ce n'est le plus prestigieux d'ailleurs.
Jean-Marc Beck, alors votre château coup de cœur, quel est-il, oui, parmi tous ceux que vous avez recensés dans votre ouvrage?
Malheureusement tous.
S'il ne devait en rester qu'un, il y a bien un château que vous aimez plus qu'un autre, pour des raisons peut-être architecturales, par rapport à une histoire, une aventure humaine?
Plutôt par rapport à l'histoire, laissez-moi réfléchir un peu, peut-être le château de Brancion. Ce n'est pas seulement qu'une porte de Paris porte le nom de Brancion, mais également c'est un château qui est assez emblématique dans le sud de la Saône-et-Loire, enfin ou dans le nord ou le centre, qui est déjà truffé de nombre de châteaux, dont Corbatin, Uxelles, et de l'autre côté on remonte vers Tournus. Mais il est perché en haut d'un piton rocheux, d'un pont barré. et qui m'intéresse beaucoup étant donné que c'est un château féodal à côté d'un village médiéval. Et c'est un des rares villages qui contient 4 monuments classés monuments historiques qui se trouvent dans ce branchion Martailly-les-Branchions. C'est-à-dire le château, les halles, l'église et je ne me rappelle plus très bien du quatrième. Mais qui en contient au moins 4 monuments historiques et ça c'est très rare dans un si petit territoire.
Alors un autre ouvrage en préparation ?
Oui. On m'avait récemment demandé si je ne pouvais pas faire un second livre sur les châteaux de Bourgogne. J'ai dit oui, mais pour l'instant il faut qu'on soit un peu patient parce que je suis en train de finaliser un autre ouvrage, mais cette fois sur l'Alsace. Et ensuite peut-être sur la Franche-Comté.
Je rappelle en tout cas le titre de votre ouvrage, « Des pierres en Bourgogne ou 100 édifices par leur histoire » par Jean-Marc Beck, que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro. Bon salon Jean-Marc Beck et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Je vous remercie. Je vous remercie pour l'instant que vous m'avez accordé et en espérant qu'il y ait beaucoup de suites. Beaucoup de livres. Je me suis un peu mis dans la tête de faire les anciennes 22 provinces, une par une. Mais est-ce que j'aurai le temps de les faire? Comme c'est quand même du travail de longue haleine et qu'on ne peut pas les faire du jour au lendemain. D'autant plus qu'on me demande quelquefois de refaire un second livre, voire un troisième. Parce que sur la centaine de châteaux, là, on n'en a représenté qu'une centaine, dont quelques-uns très connus, d'autres parfaitement inconnus. Et qu'on compte à peu près 2400-2600 châteaux en Bourgogne, rien qu'en Bourgogne. Ce qui fait quand même que la Bourgogne est une des régions les plus, on va dire, truffées de châteaux, de patrimoine, de monuments. Et j'aimerais aussi faire connaître, pas seulement la Côte d'Or, pas seulement la Saône-et-Loire, où il y a une énorme quantité de châteaux, mais également Lyon et la Nièvre. Qui est beaucoup moins connu des lecteurs de la Bourgogne, de la Côte d'Or, on va dire, et de la Saône-et-Loire. Donc le Nivernais, c'est encore autre chose. Mais là aussi, il y a de très belles pièces qui méritent à être connues.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi. Sur Radiane.
À l'instant, c'était Jean-Marc Beck pour « Des pierres en Bourgogne ou 100 édifices par leur histoire » aux éditions Unibec. L'occasion extrêmement séduisante de redécouvrir ou de découvrir carrément la richesse du patrimoine bourguignon. Je rappelle que vous retrouvez les références, les titres et les noms des auteurs que vous avez pu entendre dans cette émission sur le site d'archives de Wagon Livre via Internet, bien évidemment, formidable outil pratique et efficace. Vous pianotez le www.yannickpetit.fr. C'est la fin de ce 365e numéro de Wagon Livre qui était aujourd'hui consacré au compte-rendu de la 11e fête du livre de Saulieu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 8 décembre, à 11h, toujours sur Radion, pour une interview du journaliste politique Alain Duhamel. Alain Duhamel est aujourd'hui éditorialiste à RTL, il est chroniqueur également sur LCI, il signe dans Libération et les dernières nouvelles d'Alsace, il est membre de l'Institut et il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont une histoire personnelle de la Ve République et les pathologies politiques françaises aux éditions Plomb. Son dernier ouvrage est sorti aux éditions de l'Observatoire début novembre dernier. Et cet ouvrage a pour titre « Journal d'un observateur ». Et nous avons eu l'immense plaisir de pouvoir nous entretenir à Dijon avec Alain Duhamel, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. C'était le 23 novembre dernier. Donc rendez-vous le 8 décembre prochain à 11h sur Radion pour un entretien avec Alain Duhamel, l'occasion de revenir avec lui sur son parcours, comment s'est construit cet homme qui est devenu incontournable dans l'univers du journalisme politique. L'occasion d'évoquer avec lui mai 68, d'évoquer la télévision qui a souvent accueilli le spectacle politique. Et puis, n'oublions pas que Alain Duhamel a interviewé 100 fois président et premier ministre, notamment dans les émissions de télévision dont vous vous rappelez À Armes Égales, Carte sur Table, L'Heure de Vérité ou Le Club de la Presse sur Europe numéro 1, comme on le disait à l'époque. En tout cas, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Merci encore, au revoir et à la semaine prochaine.